Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes le dimanche 1er mars 2026 et vous écoutez le débrief du dernier jour du Festival International des Jeux de Cannes réalisé par ProxyJeux. ProxyJeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Cyrus et nous nous retrouvons en effectif réduit puisqu'il y a trois chroniqueurs, chroniqueuses qui sont partis, rentrés chez eux. Mais il y a encore les plus fidèles au poste. J'ai Kurt avec moi. Salut Kurt.
Salut Kurt. Enfin, c'est juste que mon train part demain, sinon je serais déjà parti.
Pourquoi t'as dit salut Kurt? T'es peut-être fatigué.
Je suis mort de fatigue.
Je sais que ça sera pas coupé au montage. Ça se voit, il fait le montage ce soir, je vais tout garder.
Tant pis, garde. Voilà. Mais salut Cyrus quand même.
Il y a Elodie. Salut Elodie.
Le Kurt, c'est la personne aux deux personnes en fait. Salut Cyrus, salut à toutes, salut à tous.
Salut Lana.
Salut tout le monde.
Et il y a également Drew.
Hello tout le monde, bonjour le Discord si vous écoutez en direct.
Bon alors, vous savez, comme d'habitude, petite interview de la journée ce matin, parce qu'il y avait que des interviews ce matin. C'est Lana et Drew qui s'y sont collés. Vous nous avez ramené des interviews de qui?
Des interviews fort intéressantes. On a d'abord reçu Thomas Provost, qui vient de lancer un communiqué pour dire qu'il lançait Mosaic Studio, une nouvelle maison d'édition. Il nous en a parlé sur ce qu'il prévoyait. Alors, il est pas tout seul, hein. Mais il était tout seul au micro. Mmh. On a ensuite reçu Jean-Manuel Mascorte et Cathy Suignard qui, eux, vont lancer un magazine qui va s'appeler Ludographique et va traiter, un peu comme les dossiers ProxyJeux, mais sur du beau papier avec des belles photographies. On a ensuite reçu Andrea de Cosmoludo. Cosmoludo qui change un petit peu son fusil d'épaule et fait évoluer sa gamme. Vous écouterez ça dans les interviews qui seront diffusées là dans les semaines et mois à venir.
Eh bien, merci beaucoup Lana. Très bien. Bon bah aujourd'hui c'est dimanche. C'était le dernier jour du salon et il fallait absolument tester le jeu qu'on voulait. C'était notre dernière chance le matin. Et du coup Drew, t'as pu assister à cette horde de personnes qui voulait absolument saisir cette dernière chance.
C'est vrai, c'est vrai. Alors nous, comme on l'a dit, on était d'interview ce matin, donc comme il le faut, j'ai été chercher le studio qu'on stocke dans un box à la cave. Je remonte et il était 9h-5, donc j'ai encore le temps de m'installer avant que ça arrive. Et je passe devant la porte d'entrée et ils ont ouvert la porte d'entrée 5 minutes plus tôt. Et je me suis retrouvé dans une foule courant de partout, un peu bon, comme on le connaît à SN aussi, mais ça se passe aussi en France. Hein. Et il y a quelqu'un qui était à côté de moi qui dit mais c'est The Walking Dead, ça lâchait de zombies. Mais effectivement, tu voyais les gens courir un peu pour avoir leur table et c'était assez. J'avais trouvé la similitude assez marrante, effectivement.
Mais les zombies courent pas.
Ah, ça dépend de quel film tu es. Voilà, c'est ça. Mais effectivement, des zombies qui courent, ça fait encore plus peur parce qu'ils te rattrapent. Quand ils marchent, t'as peut-être une chance, même si tu fatigues à la fin. Mais bon.
Et est-ce que t'as regardé où ils allaient?
Non, j'ai pas pris le temps. Je me suis sauvé. Je me suis poussé du flot.
T'as pas fait de stats.
Mais ça courait en direction de l'espace famille, hein, principalement parce que j'étais sur l'entrée au zéro, là, au rez-de-chaussée, le long du quai, et c'est plutôt l'espace famille à cet endroit-là.
Ah, il y a toujours un peu deux clans le matin, les tables qui sont prises d'assaut et puis les tables qui restent désespérément vides avant que ça commence à se remplir. C'est Elodie qui voulait tester Moon Colony Bloodbath en arrivant.
Ah ouais, là, il y avait vraiment du monde. Ouais. Tant pis, ça sera une autre fois. Ah oui. Il paraît que c'est vraiment très bien, du coup.
Ce n'est que partie remise, Elodie, ne t'inquiète pas. Elodie, tiens, tu voulais pas nous parler un peu jeu de rôle?
Bah si, parce qu'on a oublié hier de vous parler de la remise des prix du Graal. Le Graal, donc, c'est le groupement azuréen d'associations ludiques qui remet tous les ans, depuis 2019, 3 prix au meilleur jeu de rôle. Donc cette année, les lauréats ont été The Heist pour la création francophone. Donc The Heist, c'est un jeu où vous allez devoir faire des casses façon Ocean's Eleven avec un principe de cartes à dépiler façon Blackjack pour savoir si vous réussissez ou pas vos actions. C'est vraiment très très chouette dans un temps... vous pouvez faire des parties dans un temps très contraint, je vous le conseille vraiment fortement. Ensuite, à l'international, c'était The Walking Dead. Et enfin, pour la réédition, Cthulhu Hack. Donc The Heist, c'est chez Entremonde Éditions, The Walking Dead, Arkane Asylum Publishing, Cthulhu Hack, chez Les Douze Saints. Je n'ai pas trouvé les auteurs et autrices de ces différents jeux.
C'est un prix.
Voilà. Et c'était un prix qui était remis vendredi.
C'est un prix qui est remis dans le cadre du salon.
Qui est remis dans le cadre du salon, ouais. Donc depuis 2019.
Très bien. Merci beaucoup Elodie pour ce petit point jeu de rôle. Drew et Lana, vous avez pu aller faire un petit saut du côté de l'expo de, enfin, sur le travail de Pierrot, plutôt. Pierrot, illustrateur, assez connu dans le milieu du jeu de société.
Oui, on a un peu à la dernière minute, hein, parce que c'était cet après-midi, justement, après l'interview, on s'est dit, faut quand même qu'on aille voir ce qui a été fait. Parce que, Pierrot est un illustrateur français qui commence à avoir un peu de bouteille, hein, justement. L'exposition a été faite pour ses 20 ans, puisqu'elle a commencé en 2005-2006.
Enfin, c'est 20 ans de,
en
tant qu'illustrateur.
Hein. Il a plus de 20 ans.
Je crois qu'il a plus de 20 ans.
C'est effectivement, c'est 20 ans d'illustration. Donc, ça montre un petit peu la progression de son travail. Et comme ça, on a une petite dizaine de panneaux, et avec à chaque fois, je crois, deux ou trois jeux représentés par panneau, et où il montre donc l'évolution au cours du temps, mais aussi au sein d'un même jeu, l'évolution à partir du croquis jusqu'au dessin final, et puis des artworks correspondants. Et c'est très intéressant de voir toute cette panoplie, parce qu'il y a des jeux qu'on connaît pas forcément nous, et il y a même des projets de jeux qui n'ont pas abouti, donc avec des visuels, et à un moment on se serait cru dans une BD, ou même voir du Vincent Dutray presque sur un projet de chevalerie qui n'a pas abouti. C'est bien dommage, vu le visuel qu'il y avait, que ça soit pas un peu plus connu. Et surtout, dans cette exposition, il consacre plusieurs panneaux à la CIL, donc la charte des illustrateurs ludiques, à laquelle adhèrent plus d'une centaine d'illustrateurs, et donc qui va défendre le métier de l'illustration dans un monde où, effectivement, avec l'IA qui arrive, c'est de plus en plus chahuté.
Très bien, merci Drew. Moi, je me suis fait une réflexion. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'il y a cette année plus de préventes que les années précédentes. Des jeux qui, pour le coup, vont être diffusés en France. On nous annonce des avril, mais c'est pas comme si ça sortait dans deux semaines, vous voyez.
Ouais, je l'ai constaté moi sur deux ou trois jeux effectivement avec des sorties. Le fameux Vroom dont on vous a parlé peut-être plusieurs fois, qui est sur un fin mai, ouais, qui avait là quelques boîtes. Après effectivement il y a beaucoup de jeux qui sortent là dans le mois à venir, hein, où c'est des préventes mais vraiment plutôt récentes, mais effectivement moi j'ai fait le même constat.
C'est vrai que même sur des petits jeux comme Gigamic, le jeu Pirate King auquel on a joué aujourd'hui, qui sort fin avril et qui est un petit jeu un jeu dans la gamme des boîtes bisous là de chez Gigamic, donc histoire de choper le chaland au vol quoi.
Mais il y a sûrement la volonté aussi de rentabiliser un peu les stands et du coup faire venir des stocks en avant-première ou faire parler des jeux, hein,
ça peut être des jeux peut-être que les gens qui vont l'acheter vont y faire jouer aux copains en rentrant, les copains en rentrant vont en avoir envie et puis le temps que le jeu arrive ils l'auront oublié. Non, ça marche pas, je sais pas.
Non, parce que le bouche à oreille ça met quand même un peu de temps à se mettre en place,
sûr.
Quoi.
Oui, bien sûr,
ça donne envie de venir à ce festival pour justement voir les nouveautés. Ça légitime aussi.
Et les éditeurs préfèrent faire ces ventes-là, puisqu'en fait, en faisant ces ventes, ils prennent la part boutique, puisque les prix sont au même, les jeux sont au même prix.
Boutique et distributeur.
Je ne sais pas.
Ça dépend.
Ça dépend. Mais en tout cas, là, j'entendais, je crois que c'est Carnival. Quand on était à la table de Carnival of Sin, derrière, j'entendais le vendeur dire, l'animateur des tables, mais qui vendait des boîtes, dire si vous le prenez là, vous nous aidez parce que on enlève la part boutique et distributeur.
D'accord. Donc voilà, un plus fort retour financier, on va dire, pour les éditeurs qui ont dû s'installer à grands frais, effectivement, parce que les stands, c'est pas donné, hein, quel que soit le prix, que ça ait augmenté ou pas, on sait que c'est quand même un coût non négligeable.
Bon, alors il y avait moyen d'acheter des jeux qui vont bientôt sortir à prix fort, mais il y avait aussi moyen d'acheter des jeux pour pas cher qui sont sortis il y a un petit moment. Ou il n'y a pas si longtemps que ça.
Oui, il y a quand même quelques soldes, quelques bonnes affaires à faire. Il y a notamment quelques magasins de déstockage. Il y a le déstockage Asmodée qui était pas très loin d'ici, avec des prix défiant toute concurrence.
Avec des sacrés tours de Tower Up.
des tours
apprécier
de...
le jeu de mots.
Ah là là là, bravo, bravo, bravo. Des tours de Tower Up, des tours de Donuts, hein, de Funforge qui n'est plus là, effectivement. Et ça s'est bien réduit, parce qu'il reste encore un petit peu aujourd'hui, mais je pense que là, sur la fin de la journée, c'est parti. Et on a eu quelques soldes, vrais soldes, en fin de salon, sur un ou deux éditeurs, où on a pu profiter de prix cassés, parce qu'ils cherchent aussi à en ramener le moins possible. Mais bon, c'est pas encore généralisé au point de repartir les bras pleins.
Et il y avait aussi moyen d'acheter des jeux très très vieux. N'est-ce pas?
Voilà, tout à fait. Donc, comme j'en ai parlé il y a deux jours maintenant, donc dans le débrief du vendredi, où j'ai essayé d'accéder à la bourse aux jeux qui était la nouveauté de l'année, et pour lequel j'ai abandonné. Donc, je tiens à remercier notre auditeur Psycho qui, lui, a fait l'effort de faire la queue et qui, sur Discord, nous a fait un petit retour. Donc, il y a été hier, plus d'une heure dans la file d'attente.
Wow.
N'est-ce pas? Il a dit que s'il y avait des bons plans, bah, quand lui il est arrivé, ils étaient déjà partis. Il pense que ça a du sens pour les néoludistes parce qu'il y a quand même pas mal de classiques à bon prix. Il a même vu des gens partir avec des Cluedo et des bonnes payes. Voilà, donc Psycho, merci à toi d'avoir subi cette heure de queue pour nous faire un retour. Enfin, j'espère que tu n'y as pas été que pour ça,
ouais.
Mais pour nous faire un retour.
Et on voudrait savoir quelle version de Cluedo t'as acheté.
C'est du dévouement quand même de nos auditeurs, hein. Faut le reconnaître.
Bon, il y avait moyen d'acheter des jeux, mais il y avait aussi moyen d'essayer des jeux. Et on en a essayé des jeux encore aujourd'hui. Alors, on va parler des jeux auxquels on a pu jouer. Alors, Elodie, je vais te laisser démarrer sur les jeux de la journée. Je crois que tu voulais nous parler de Mosaïque. Encore un Mosaïque. Hein.
Oui.
Parler de l'éditeur, le studio Mosaïque. Et là, c'est le jeu Mosaïque.
Je passe d'une Mosaïque à l'autre. Alors, Mosaïque, c'est un jeu de Léo Beno et qui est sorti chez Blam. Un jeu basé sur l'illustration et donc forcément qui me faisait de l'œil. Et surtout conseillé par Flavien. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va faire dans Mosaïque ? On va faire un carré de 3 par 3. On a beaucoup vu ça quand même ces derniers temps, de faire des carrés de 3 par 3 dans tous les sens, qui scorent dans un sens, dans un autre, nanana, nanana. Et donc, à chaque tour de jeu, on part avec 3 cartes en main. On va en choisir une qui sera positionnée dans notre carré. Sans condition de pause, on peut vraiment la mettre où on veut. Et on prendra aussi un mot ou une expression ou un attribut qu'on mettra en haut ou en bas de nos colonnes ou à gauche ou à droite de nos lignes et qui nous feront des conditions de points. Et qui peuvent être plus ou moins difficiles, qui sont plus ou moins courantes dans les cartes. Par exemple, ça peut être une condition de couleur, ça peut être des éléments dans l'illustration. Moi, j'avais pris, par exemple, les couvre-chefs. Donc, j'étais arrivée à trouver 3 cartes où il y avait des gens chapeautés. Il peut y avoir les bijoux, il peut y avoir les bâtiments, il peut y avoir des volutes. Enfin, voilà, ça peut être aussi des conditions de forme. Donc, on est sur à la fois quelque chose où l'observation des cartes va être de mise, mais aussi cette idée d'essayer d'optimiser au mieux notre carré, enfin notre tableau, avec une en fait on joue tous en même temps notre carte et il va y avoir un système d'initiative où si vous posez la carte la plus petite, donc des fois on va pas forcément poser la carte la plus intéressante immédiatement pour notre tableau, mais celle qui va nous permettre de choper l'élément de scoring, enfin la notion à placer dans notre tableau, la plus intéressante. Donc on va être toujours comme ça, un petit peu en train de jongler, et avec que 3 cartes en main, on n'a pas non plus une infinité de choix. Alors, moi je trouve que c'est un jeu qui a le cul entre deux chaises, parce qu'à la fois très très beau, il y a donc plein d'illustrateurs, 89 illustrations, 33 illustrateurs et illustratrices, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on chope une carte, on a une nouvelle découverte et on a une nouvelle surprise. Parce qu'avec des styles hyper différents, des cartes qui peuvent être très figuratives, des cartes qui sont très oniriques, des cartes en noir et blanc au trait, d'autres qui sont vraiment en peinture numérique. Donc ça, moi, ça m'a vraiment touché et plu, et le fait qu'on mette vraiment en avant les illustrations. Tous les illustrateurs et illustratrices sont cités sur le bord de la couverture. En revanche, la couverture, elle est moche à pleurer. Je sais pas comment ils sont arrivés à faire quelque chose d'aussi vilain sur un jeu aussi joli.
Ils ont pas voulu choisir un illustrateur ou une illustratrice, peut-être.
C'est ça, mais même, il y aurait peut-être eu moyen de faire une composition un peu plus élégante, façon, par exemple, de Paper Tales, où ça aurait pu être mis plein d'illustrations comme ça en mosaïque, justement.
Non, mais justement.
Et puis même la, même le titrage mosaïque est pas joli, c'est peu élégant. Enfin, voilà. Et donc, Gisèle, cul entre deux chaises. Parce que cette idée de scoring, d'aller se casser la tête pour scorer au mieux, nous sort de la beauté des cartes. Et on est sur un truc à la fois chaud et froid, je trouve. Et donc, ça fait un jeu tiède, malheureusement. Et un jeu qui ouvre aussi, pour moi, la porte à la négociation. Mais regarde, là, t'as vu, il y a une casquette, ou c'est pas une casquette. Et donc, soit on peut la jouer sympa, dire « Ouais, ok, ça ressemble un peu à une casquette. » Soit être vraiment à dire bon non, hors de question. Donc ce côté où on négocie comme ça des trucs et qu'on peut jouer vraiment sur la mauvaise foi sans que ce soit le cœur du jeu, moi ça m'a un peu gêné. J'ai trouvé ça un peu longuet aussi, parce qu'on passe vraiment du temps à regarder nos cartes, ce qui est normal, hein, parce qu'il faut les regarder vraiment dans c'est des tout petits détails, hein. Ça peut être des personnages tout petits et vérifier s'ils ont une bague ou pas. Et puis certaines cartes sont vraiment manque de. Enfin, Cyrus a eu une carte qui était violet sur violet, on voyait rien quoi. Alors si elle rentrait sur la colonne violette.
Ça c'est sûr.
Et a priori nuit. Faisait plutôt nocturne.
C'était sous l'eau.
Ah non, c'était sous l'eau. Ben voilà, moi j'ai même pas vu l'eau. Pourtant j'ai l'habitude de regarder.
Il y avait des poissons et enfin bref.
Ok, j'ai même pas vu les poissons quand tu me l'as montré. Donc voilà. Pourtant moi je suis le cœur de cible de ce genre de jeu. Eh bien, il ne rejoindra pas ma ludothèque, malheureusement. Ou alors si, juste pour... Moi, je ferai un autre jeu avec ça. J'essaierai de deviner quel illustrateur, quelle illustratrice avec quelle carte. Mais ça sera un autre jeu.
Ouais, je rejoins pas mal ton analyse. Ça m'a un peu saoulé de devoir un peu négocier le bout de bras. Même si on n'a pas fait de la négo en méchant, mais dis-toi, ce truc de... Oh, on est d'accord là, c'est une lune quand même derrière la nana là qui est sur sa balançoire, ou enfin en fait c'est quoi? Ouais, bah aussi ça va, c'est ça. Et ouais, on est toujours un peu je sais pas trop et puis devoir passer un temps fou à regarder les détails. Alors en même temps il y a ce côté où il faut aller regarder le détail des cartes, donc j'ai envie de dire bah, moi c'est vrai que je me suis jamais amusé à regarder des illustrations de façon d'aussi près, tu vois. Donc quelque part, c'est je vois Flavien qui écrit pour lui, c'est une lettre d'amour de blâme à ses illustrateurs. Donc, je peux comprendre ce truc-là. Mais en fait, à un moment, c'est un peu saoulant, quoi. Tu passes beaucoup de temps, puis bah, après, moi, de toute façon, j'aime pas trop ces jeux de grille dans lesquels effectivement il faut mettre des scoring à gauche, à droite. À la fin, de toute façon, t'es déçu parce que tu sais que ton truc il rentrera jamais dedans. Alors si vraiment t'as un truc qui rentre dans les trois contraintes que tu t'es donné, voilà, oui, là, chapeau. Mais je pense que globalement, ça sera pas le cas. Voilà. J'ai aussi cette impression d'un jeu un peu qui a le cul entre deux chaises.
Alors, c'est Mosaïque, MOZAIK, de Léo Beignot, donc chez Blam. Je vais pas vous citer les 33 illustrateurs et illustratrices, mais sachez qu'il y en a des très connus à l'intérieur, qu'il y a vraiment un beau panel. Et en effet, c'est essentiellement ceux qui ont déjà bossé pour Blam. Donc, si vous trouvez que les jeux de Blam sont très beaux, on a l'illustratrice de Chakra, on a les illustrateurs et illustratrices de Carta Ventura, voilà, entre autres. Donc, vraiment, les cartes sont splendides. L'âge, il est donné à 10 ans et plus, c'est pour 2 à 4 joueurs.
Ok, merci Elodie. Moi, je vais vous parler rapidement de Amarok. Donc, Amarok, c'est un jeu qui est sorti chez Subverti. C'est un jeu, ils disent déduction, bluff, en fait, c'est de la déduction un peu floue. Le principe du jeu, c'est qu'on va avoir deux cartes en main, et uniquement deux cartes. Il y a deux sets de cartes, il y a des bleus, des rouges, et on sait en fait ce que les gens ils ont comme couleur dans leurs mains. Il va falloir globalement, bah, sur les deux cartes qu'on va poser devant nous, il va falloir que ce soit la somme soit la plus élevée ou la plus basse. Il y a une condition en fait, il va pouvoir switcher on veut la plus haute valeur ou la plus basse valeur. Et on va pouvoir en fait à son tour soit jouer une carte de sa main, soit aller prendre une carte qui est au milieu, soit une carte de la pioche, soit prendre dans la main des autres. Et il faut essayer de deviner ce qu'ils ont potentiellement par rapport à ce qu'ils ont joué, etc. Il y a une tension qui se place dans le jeu. C'est assez impressionnant. On est vraiment en... C'est la déduction floue. C'est-à-dire, en fait, on sait pas exactement ce que les gens, ils ont... voilà, on a des probas, on joue un petit peu sur les probas, on joue un peu sur la façon dont ils ont joué. Et à un moment, il y a un petit twist, c'est que quand on a gagné une première manche, on va jouer avec une carte que nous, on ne va pas voir de notre main, mais que tous les autres vont voir. Du coup, on se retrouve dans une dynamique qui où la déduction se renverse un peu. On essaie aussi de deviner ce que nous, on a dans notre main en fonction de ce que les autres font. Est-ce qu'ils prennent notre carte ou pas? Et donc on interprète, on surinterprète, et il y a vraiment des éléments qui nous permettent de d'intuiter, plutôt intuiter en fait. On n'est pas dans la déduction, on essaie d'intuiter ce que les ce qu'on a dans notre main quand on ne sait pas, ce que les autres pourraient avoir, et du coup bah comment il faut jouer. Parce qu'évidemment il y a aussi un truc qui fait que on peut renverser donc passer de la plus haute valeur à la plus basse valeur, donc on peut jouer aussi là-dessus. Il y a un système qui permet de gagner directement la manche et de mettre fin si on chope deux cœurs. C'est des symboles qu'on va retrouver dans les cartes. Enfin bref, belle découverte, un jeu ultra épuré. Franchement, il n'y a pas grand-chose. On a joué la partie, je pense, en une quinzaine de minutes, mais il se passe des choses vraiment. Moi, j'aime bien cette déduction un peu en nuage, j'ai envie de dire, flou. Là, c'est du côté intuitif, quoi. Plus dans l'intuition, le feeling de ce que les autres font.
Et moi, j'ai bien aimé aussi les retournements de situation qu'on peut avoir dans la manche. Des fois, il y a une prise de risque aussi. On sait pas quoi prendre, on voit que ce que les autres ont dans les mains sont pas intéressants, c'est pas plus intéressant que ça, donc on va aller dans la pioche. Et là, bim, tu sors la grosse carte qui te permet de gagner, tu bluffes un peu avec l'autre et là, clac, il pose son piège à loup. Le clac était volontaire, évidemment. Entendez le resserre sur votre pied, là. Parce que piège à loup, ça veut dire que tu perds la manche, quoi.
Ouais, il y a vraiment des effets de surprise, hein.
Ouais, nous, on l'a depuis un petit mois maintenant, parce qu'il est sorti. Mmh. On l'a fait pas mal jouer. Et donc, il y a cette mécanique, effectivement, c'est un peu un catch-up, hein, de pas avoir sa carte. Du coup, ça te ralentit et ça permet aux autres de te rattraper. Et par contre, j'ai jamais trouvé un moment où tu vas aller prendre ta carte que tu ne vois pas. Parce qu'en gros, si elle est intéressante, les autres l'auront pris avant que tu joues. Donc, je trouve que c'est un petit peu un point faible, je dirais, là-dessus. Si tu la vois pas, que personne la prend, tu vas pas la prendre, de toute façon. Donc, c'est forcément une carte que tu offres aux autres.
Alors, je crois pas effectivement qu'on soit trop amusé à prendre cette carte-là.
Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas été jusque là, c'était une réflexion, en fait.
Mais en fait, c'est parce que, pour l'avoir joué plusieurs fois, je vois que ça généralise, en fait. Et c'est là où il y a, du coup, faut, en gros, presque un catch-up obligatoire que tout le monde rattrape pour qu'on commence à aller se piquer chez les uns les autres.
Mais en revanche, ça joue dans l'intuition, vraiment. Le fait que, effectivement, qu'ils la prennent pas. Du coup, ça joue sur l'intuition et du coup, ça te dit, ok, du coup, c'est une carte, je dis n'importe quoi, c'est une carte de faible valeur, du coup, sûrement. Et donc, ça veut dire que les autres, potentiellement, elles sont plus hautes.
Et du coup, je pense que si tu peux la jouer, s'il y a un changement de signe, à un moment en courte partie.
Non, parce que s'ils l'ont pas joué, ça peut être un piège. Donc, il n'ira pas. Donc,
je suis à peu près persuadé qu'on a joué, enfin, moi, il me semble avoir joué une de mes cartes face cachée à un moment.
D'accord.
Enfin, qui était cachée pour moi, mais, bon, bref. Voilà, belle découverte, en tout cas, à Maroc.
Qui est dans la même gamme que Symbiose, ces toutes petites boîtes, là, qui sont bien pleines, avec les mêmes grandes cartes aussi, qui sont très agréables à jouer. Dire qu'ils, je trouve que dans cette gamme, ils sont arrivés à faire un joli travail. C'est pas des jeux renversants, c'est pas des jeux de l'année, mais c'est des jeux qui sont toujours agréables à jouer et qui amènent quand même des choses qu'on a peu vues.
Ah, et puis beau. Hein.
Et puis magnifique, ouais. Et
puis beau, il y avait l'illustrateur de Baroque sur le stand à ce moment-là, qui est aussi l'illustrateur de Symbiose. Et franchement, ouais, non, c'est du super boulot, ouais.
Donc c'était Amarok, un jeu pour 3 à 6 joueurs à partir de 8 ans, une quinzaine de minutes, et c'est un jeu de Charlène Schaps et illustré par Baptiste Pérez.
Donc à noter, une autrice seule et qui sort son premier jeu. Et ça, mine de rien, on n'a pas beaucoup de cités des autrices seules.
Et félicitations à elle.
Voilà.
Ensuite, Kurt, tu voulais nous reparler de Carnival of Sins.
Bah oui, je voulais aller faire coucou à Flavien qui je pensais présenterait le jeu. Coucou Flavien, et qui en fait n'était pas du tout à la présentation du jeu. Grosse déception pour la présence de Flavien, pas pour le jeu.
Pourtant, je suis sûr qu'il aurait bien porté le petit gilet.
Le gilet doré
et le loup.
Ils étaient tous très saillants sur le site. C'était très sympa. Carnivals of Sin, pour les plus courageux de nos auditeurs qui ont écouté le débrief des scènes, on en a parlé donc dans le débrief des scènes. C'est un jeu à partir de 2 joueurs, mais que vraiment je vais conseiller à plus, parce qu'à 2 joueurs, il va pas être intéressant. Soyez 4-5 autour de la table. C'est un jeu dans lequel qui va jouer en 7 manches. Et ça tombe bien, on a 7 cartes dans la main. Et ça tombe bien, il existe 7 péchés capitaux. Vraiment, les planètes s'alignent. Chaque carte représente un péché capital et il sera joué d'une façon différente. Donc le leader qui est le diable jette une poignée de dés au centre de la table. Quand je dis poignée, j'exagère pas. C'est tous les dés qui existent en jeu de rôle. Des 4, des 6, des 8, des 10, des 12, des 20. Voilà, vous avez toute la panoplie. Et les cartes ont des effets différents. Donc chacun son tour une carte qui nous reste dans la main. Les cartes ne seront jouables qu'une seule fois par personne. Et on en applique l'effet. Donc si je joue la paresse, je prends le dé qui est le plus proche de moi. Si je joue la gourmandise, je ramasse X dés, etc., 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 etc. Et donc on va compter à chaque manche, on va compter les points en fonction des dés qu'on a ramassés, avec un petit rattrapage pour la personne qui avait fait de moins de points et un petit dé bonus. Et évidemment, il y a moyen d'embêter les voisins sur certains effets de cartes, d'aller relancer ses dés ou d'aller lui piquer un dé. Ou encore mieux, si on est vraiment en colère, on peut essayer de dégommer le dé chez la personne à ses risques et périls. Hein. Mais ça vous le verrez. J'aime beaucoup ce jeu. Je le trouve beau, pas que parce que les cartes brillent. Déjà, je le trouve beau. J'ai réussi à l'obtenir moi depuis SN. Donc j'y ai rejoué de temps en temps. Et puis là, ça m'a fait plaisir de voir qu'il arrivait dans une version française chez un nouvel éditeur qui s'appelle Actarus. Toi-même, tu sais, si tu regardais le Club Dorothée à l'époque.
Ils sont pas tout à fait. Ils ont déjà trois ou quatrième jeu.
Oui, oui, oui.
Et ça fait au moins un an qu'il y avait eu le Flower qui était sorti pour Noël dernier, je crois, si je dis pas de bêtises. Bah moi, je l'ai découvert parce que du coup, vous en aviez parlé pour SN, mais voilà, il y en a qui sont pas partis à SN. Vraiment, ouais, j'ai bien aimé ma partie. En effet, il est très très beau, ça c'est indéniable. Mais ce côté de guessing, etc., puis très léger parce que c'est que cette carte, c'est que cette tour. Le fait d'utiliser les dés différents, je trouve que ça on l'a pas vu souvent, d'avoir comme ça tous 7 de dés. Donc rien que ça, un jeu qui va utiliser comme ça. Moi, si j'ai pas fait le fil rouge de proxy jeu, mais si j'étais un élément de jeu, moi ça serait le dé et sûrement un D20. Et là, de pouvoir en avoir un, avoir toutes ces formes là sur la table, je trouve que c'est vraiment. Et puis jouer aussi avec le fait qu'on puisse récupérer le dé qui est proche de nous. Enfin, je trouve qu'il y a des idées qui sont chouettes, qui mettent de la matérialité. Je sais pas comment dire ça. Enfin, c'est un jeu qu'on pourrait pas dématérialiser, par exemple.
Il y a plein de petites originalités l'air de rien en fait dans les effets. Les effets, ils sont intéressants. Il y a ce truc où. La paresse, par exemple, tu dois prendre le dé le plus proche de toi. En fait, ça joue avec la spatialité des dés. Ça joue avec un côté un peu adresse, effectivement, parce que tu peux t'amuser quand tu es en colère. Tu peux jeter un dé, donc relancer le dé de quelqu'un, mais tu peux aussi le relancer effectivement sur d'autres tas de dés pour tenter de changer leur valeur. Il y a des petites idées comme ça qui sont assez cool dans un jeu... sur le principe, tu vois, ne donne pas l'impression de réinventer la poudre, mais avec des effets, un peu innovants, quoi. Et du coup, c'est cool. Ça rend le truc cool.
Ouais, petit taquin comme il faut, ni trop ni pas assez.
Ouais.
Et c'est vrai que thématiquement, ça colle vraiment bien, quoi.
Absolument. Et puis après, bon, on y a joué là aujourd'hui sur un salon, donc on n'est pas dans les meilleures conditions de bruit, de concentration, etc. Mais il faut savoir, comme je disais, les cartes que les joueurs, on en a 7, et vu qu'il y a 7 tours, chaque carte ne sera jouée qu'une seule fois par joueur. Donc on peut, dans des bonnes conditions, se dire, je suis le premier à jouer, il reste tel dé sur la table. Ma voisine, elle a déjà joué le dé qui permet de prendre, la carte qui permet de prendre le plus gros dé. Donc elle pourra pas aller là-dessus. Le suivant, il a déjà joué telle carte. Lui, qu'est-ce qu'il a joué? Il a joué ça. Donc je vais me tenter là-dessus. Je pense que ce sera pas mal, personne pourra me contrer, etc. Il y a un vrai côté, je pense que si on y retourne, il y a moyen de vraiment mettre en place des trucs, des petites techniques intéressantes. Voilà, donc il s'agit de Carnival of Sins. Donc comme je l'ai dit, c'est édité chez Actarus Edition. C'est un jeu de Alex Nogues et illustré par Vincente Cifuentes.
Ça fait un peu penser à Ice White Shot, tout ça, non? Hein, il y a un péché capital, ouais. Ça se passe dans un manoir, non, les scènes C'est pas dans ce manoir-là que t'es allé, non? Un manoir un peu bizarre?
C'est ça. Je suis allé dans un manoir un peu bizarre, mais ne vous inquiétez pas, il est pas encore disponible. C'est un manoir bizarre qui sortira un peu plus tard. Donc on est allé chez Bombix, effectivement, qui annonçait ce, j'allais pas dire un proto, mais un jeu qui ne sortira qu'au mois de juin. Et donc, il s'appelle Manoir Bizarre. Et c'est un jeu où on va créer devant soi son petit manoir. Donc, on a des petites cartes que l'on va prendre en début de tour. Au début de son tour, on va prendre 3 cartes. Je vais m'en mettre une de côté pour fabriquer mon manoir. Et je vais en donner une à mon voisin de gauche et une à mon voisin ou ma voisine de droite. Et on va comme ça construire sur notre table des étages, des pièces de notre manoir, chaque carte représentant une pièce. Pour pouvoir les juxtaposer, il faut que mon manoir, je puisse déambuler dedans. Donc, si je mets ma carte dessus, ça change d'étage. Donc, il faut que j'ai un escalier, sachant qu'à chaque fois, on retrouve la moitié de chaque élément sur chaque carte. Donc, si je veux mettre un escalier, il faut qu'il y ait l'autre moitié de l'escalier pour monter ou pour descendre. On a les échelles. Après, si je me déplace sur le même niveau, eh ben, faut pas qu'il y ait de mur. Et en gros, comme ça, je peux, au fur et à mesure du jeu, empiler les cartes du moment où je peux atteindre la carte que je pose. C'est-à-dire que à la fin, le manoir, il est absolument pas carré. On n'est pas sur un King Domino, on est en train de faire quelque chose qui est informe, mais le but, c'est de pouvoir s'y balader.
Il est bizarre.
Il est bizarre, ce manoir. Bah oui, on l'a dit depuis le début. Et donc, sur ces petites cartes, on a différents éléments. Ça peut être aussi une pièce avec un balcon, on peut avoir un cercueil, parce que nous sommes, en fait, dans une ambiance un petit peu vampiresque ou monstruesque, comme on veut. Et pourquoi on fait tout ça? Bah, c'est parce qu'en début de partie, on va avoir tiré une grande carte qui nous explique le scoring de la partie. Dans la partie qu'on avait, nous, eh ben, c'était à chaque coup qu'on construisait des escaliers, alors pas à chaque coup, mais en fonction du nombre d'escaliers, on allait marquer des points. En fait, on allait marquer des étoiles. Et par exemple, quand je fabrique mon premier escalier avec mes 2 cartes, j'ai 2 étoiles. 2 étoiles, ça veut dire que je vais aller choper une carte, 2 étoiles sur le côté dans la pile 2 étoiles. Et ces cartes 2 étoiles, bah, c'est à nouveau une petite carte que je vais agencer dans mon manoir. Et ces petites étoiles représentent des points de fin de partie. Et en fait, ces petites cartes avec des étoiles, c'est des petits avis, comme si mon manoir était sur TripAdvisor et que c'était quelqu'un qui venait donner son avis sur mon manoir.
Sauf que là, c'est sur TokTok et Instagram.
C'est
Instagram.
Ça. Instagram.
Bordel.
Donc ça, cette carte de scoring qui est tirée au début, elle a en fait 2 scorings différents. La première, vous l'avez compris, c'était sur les escaliers pour nous, et le deuxième scoring, c'était sur des pièces spéciales parce que chaque pièce, mais les pièces peuvent avoir des petits blasons et on avait du scoring en fonction des blasons. Et petite subtilité sur les scorings de fin de partie, c'est que en plus de ces 2 conditions, on va tirer aléatoirement aussi 2 cartes qui vont rester face cachée, qui vont être potentiellement du scoring de fin et on va pouvoir prendre connaissance chacun d'une seule de ces 2 cartes. Mais ces cartes n'entreront en jeu que si on pose une carte sur laquelle il y a un petit œil. Et à ce moment-là, je pourrais retourner la carte, celle que j'ai vue ou une autre. Et à ce moment-là, ce scoring entrera en fonction pour la fin de partie. Voilà, et donc le jeu s'articule comme ça. On va jouer, je crois, c'est 6 tours.
Je crois.
Ouais, où on va comme ça poser 2 cartes par tour et on agence notre manoir. Si jamais on récupère une carte qu'on peut pas poser pour X raison, on peut écraser une carte déjà existante. Et voilà, on va comme ça cheminer. Et j'ai trouvé ça très sympa de construire son petit manoir. Et surtout, le plus sympa, c'est de donner des cartes que notre voisin il veut pas. Forcément, on va un petit peu l'embêter le tétier parce que sur certaines cartes, il y a des étoiles rouges, des étoiles négatives qui ont commencé à lui faire perdre des points. Voilà, donc c'est pas le jeu de l'année, c'est pas le jeu du siècle, mais on a passé un très bon moment. Ça reste assez contenu parce qu'on a joué en 20 minutes, ça s'est expliqué en 5-10 minutes. Et surtout, donc dans la boîte, ils annoncent 9 grandes cartes de scoring. Donc c'est pour renouveler un peu l'expérience. Et puis plein de petites cartes de scoring annexes. Donc voilà.
Un PPP interactif, quoi.
Un PPP. Interactif, ouais.
Ouais, clairement interactif, parce que moi, ce que j'ai bien apprécié dans ma partie, c'est que quand tu poses une carte qui te ramène une petite carte de scoring, tu peux redéclencher, ça peut comboter, ça fait un peu arcade, ça te redéclenche et du coup tu vas rechercher une nouvelle carte de scoring qui elle-même pourrait, alors ils ont fait des seuils hein, pour que à un moment ça se calme, mais ton manoir peut vraiment être plus ou moins grand en fonction de tous les avis que tu récupères de tes clients puisque tu es gérant de ce manoir bizarre. Et j'ai trouvé les illustrations très très jolies, ça s'imbrique bien, c'est bien fait même si ce sont des petites cartes et on repère des petits éléments un peu bizarres eux aussi partout sur ces cartes. Donc en effet, j'imagine qu'il y a une variabilité sur les objectifs qui est plutôt sympathique.
Et ce qui m'a un petit peu surpris, c'est que le scoring qu'on estimait à la fin était pas le bon, en fait. Moi, je croyais être bien en arrière parce que Lana avait développé beaucoup, beaucoup d'escaliers qui ramenaient des points, et au final, ben, ça, c'est pas ça qui a primé. Et, cette petite surprise était intéressante.
La répartition des points de fin de partie est vraiment très différente, sur les différentes cartes de scoring, et ça peut donner des surprises.
Donc voilà, c'était Manoir Bizarre, dont les auteurs sont Louis Blaise et Justine Van Huffel, illustré par Cat Styles. Alors, je ne sais pas si c'est un studio ou un pseudonyme. Donc, chez Bombix, qui sortira en juin 2026 environ.
Merci, Dorou. Bon, Lana, tu as trouvé ton as de cœur de
non,
la journée.
C'est un as de pique.
Ah mince, c'est un as de pique.
C'est Ace of Spades, la vengeance de l'as de pique. C'est un jeu qui va sortir chez Yellow en avril, un jeu pour un ou deux joueurs. Alors nous, on a joué à deux et ça se joue en mode coopératif. C'est un jeu de cartes basé sur des mains de poker et on va chercher à faire la meilleure combinaison avec sa main pour faire un nombre de dégâts. En fait, ces dégâts vont nous aider à dégommer des méchants qui nous affrontent en duel. Et de manche en manche, on va affronter des vilains de plus en plus forts. Mais heureusement, quand on gagne son duel, on va gagner des pouvoirs, soit one-shot, soit permanent. Ou alors, un jeu avec des mains de poker où on gagne des pouvoirs si on atteint un seuil et il faut faire après encore plus de points,
on
ça vous fait...
On dirait un jeu vidéo qui a fait beaucoup parler de lui l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus.
Et bah
Balatro.
Balatro. Et bah clairement... Il y a ce sentiment, hein, ça s'en rapproche et ça s'en rapproche bien. J'avais un doute, hein, quand on m'a dit ça, c'est basé sur Balatro. Je me suis dit en jeu de société, est-ce que vraiment ça va se ressentir? Sincèrement, ouais. On retrouve bien cette notion de pression, de monter en puissance des seuils à atteindre, avec des mains qui restent limitées. La pression se fait parce que on n'a pas beaucoup de mains à jouer pour réussir son duel, et on n'a pas beaucoup non plus de possibilités pour faire tourner ses cartes. Et en plus, la défausse, là où on met la défausse, c'est pas remis à disposition automatiquement. Du coup, on va vachement hésiter à faire trop tourner sa main parce qu'on va encore dépenser des actions si on veut récupérer des cartes. Au final, on va gagner si on bat le big boss final. Et il y a plusieurs cartes de chaque niveau, hein, parce que ça se fait beaucoup, beaucoup de boss à battre. A priori, une grande variété pour chaque niveau, ce qui va permettre une belle variabilité des méchants et des pouvoirs qu'on va pouvoir récupérer. Alors, un bémol malgré tout. L'édition, donc on est en duel, on a des revolvers, on lance des balles, enfin c'est cette thématique-là. Et ils ont mis les numéros, on est sur des molettes numérotées, vous voyez, crantées, ouais. Qu'on fait bouger quand on arrive à faire des dégâts. Et aussi pour représenter le nombre de balles qu'on a, le nombre de relances qu'on peut faire, enfin de changements de cartes qu'on peut faire, ça fait penser en fait à des barillets dans un pistolet, ce crantage. Alors c'est bien dans le thème, par contre, j'avoue, c'est pas très pratique.
Ah ouais.
Alors tu tournes jamais dans le bon sens déjà. On va savoir pourquoi. Je ne sais pas.
Ah, c'est toujours l'enfer ces molettes là.
Mais oui. Donc je pense qu'on l'utilisera pour les vilains à battre, parce que ça c'est quand même pas mal. En revanche, je pense que pour le nombre d'actions en fait qu'on a, on utilisera des cubes d'une couleur pour les balles et puis d'une autre pour le nombre de cartes
à lancer. Les éditeurs pensent à mettre des petites flèches par là c'est plus, par là c'est moins, non?
Mais non, on va aller chercher les balles de bang pour jouer.
Ah, excellent.
J'y pensais, ouais.
Donc voilà, je sais pas si c'est un vrai coup de cœur pour moi. En tout cas, j'ai adoré ce jeu. C'est un jeu qui va pas tarder à arriver et j'ai pas pu m'empêcher de repartir avec, hein, j'avoue.
Oh là là, un achat de pré-vente, la fameuse.
Ouais, donc on a cet aspect Balatro, mais on a aussi un peu le sentiment régicide. Où les méchants sont de plus en plus forts et ça monte, on a la pression et on a de moins en moins de cartes parce qu'elles sont parties dans la défausse. Et trouvé aussi, on a un peu le sentiment régicide. Alors, Ace of Spades, vous avez peut-être déjà entendu parler parce qu'il y a eu un peu un bad buzz justifié, hein, puisque les premières illustrations du jeu, je crois que c'est un jeu de Devir à la base,
oui.
Et les premières illustrations étaient très mal orientées, hein, parce que je crois qu'il y a un des monstres à battre, c'était juste un esclave noir, voilà, des choses oui, bien sympathiques.
C'était raciste, hein.
Ouais, ouais, complètement.
Faut dire les termes, hein.
Voilà, donc Devir,
c'est... On va mettre ça sur une grosse maladresse, clairement, tu te dis ce... Alors, thématiquement, voilà, cette image de l'esclave noir enchaîné, etc. Mais que ça puisse passer dans autant de mains et que personne ne dise, mais là, les gars, c'est pas possible, quoi. On peut pas laisser passer ça, ça paraît quand même vraiment ahurissant.
Mais là, ça a été repris, visiblement, Yellow a rectifié le tir.
Mais oui. Même Devir, ils ont immédiatement arrêté les ventes du jeu, ils ont récupéré les jeux qui étaient pas encore vendus. Ils ont refait des cartes pour remplacer les deux qui posaient vraiment problème. Et les cartes refaites pouvaient être envoyées à tous ceux qui en faisaient la demande de manière gratuite. Et derrière, bah, évidemment, les cartes problématiques n'étaient plus dans les reprints. Et enfin, ils disent aussi qu'ils vont consulter des experts par rapport à la diversité, à l'histoire, etc. pour éviter des nouvelles boulettes. Hein, ouais. Voilà. Okay. De reproduire des clichés aussi problématiques, parce que c'est vrai qu'en voyant les cartes, c'est quand même vraiment violent.
Merci Elodie pour ces précisions.
En tout cas, la version française ne souffre pas de ces illustrations. Mais ouais, j'ai bien apprécié la partie et effectivement, c'est ce petit sentiment de joie à deux. Alors, toujours avec la limite de la communication limitée. Ou même l'animatrice a été un petit peu gênée de trouver la limite, qu'est-ce qu'on a le droit de se dire, de pas se dire, surtout pas ce qu'on a en main, ça on sait, mais après où est la limite, bon, voilà. Mais ouais, très 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 intéressé aussi.
Et je pense que c'est un des seuls jeux où il était possible de jouer en solo, ce qui est rare quand même sur un salon. Et ben, la première fois quand on est passé, la table était prise par quelqu'un qui jouait tout seul. Donc Ace of Spades. La vengeance de l'as de pique, c'est un jeu de Benja Amorin, illustré par David Rubin. Alors, il est annoncé pour 14 ans et plus, peut-être à cause du thème. Et surtout, c'est un jeu pour un ou deux joueurs exclusivement.
Ok, merci Lana. On retourne chez Drew maintenant, qui veut nous parler de God 5.
Quoi, vous venez chez moi? Mais non, attendez, on va finir d'abord. Bon, si vous entendez un peu de bruit autour, c'est qu'ils sont en train de démonter tout le salon, là. Ça tape, ça démonte, ça déchire, ça range, ça ferme, ça bouge les tables. Donc, il y a peut-être un peu de bruit, là, quand même. On a pu jouer à God 5. Donc, moi, c'est un jeu qui m'intéressait parce que, j'aime bien les jeux déduction, hein. Et Lana aussi. Donc, on a voulu jouer. C'est un petit jeu avec des tuiles où, en fait, on va tirer en début de partie, 5 tuiles dans des couleurs distinctes. Et, nos voisins vont nous les classer. Parce que pour nous, elles sont de dos. Donc, je connais pas les tuiles. Et je vais devoir deviner ce qui se cache devant moi. Pour ça, déjà, on va voir. Au début de partie, 5 tuiles qui vont être retournées. Donc, tac, 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 je peux cocher, c'est pas ces numéros-là que j'ai devant moi. Et puis, je vois aussi, toutes les tuiles de mes petits camarades. Donc, je peux aussi cocher tout ça. Et après, on va poser des questions. Donc, à son tour, on va révéler une des tuiles qui est cachée sur la table. Et on va dire, tiens, encore un numéro que je connais. Hop, je le coche, je l'ai pas devant moi. Et je vais dire à mes petits camarades, ce numéro-là, comment il se place par rapport aux autres numéros que j'ai devant moi. Donc, on va me le mettre peut-être entre mon deuxième et mon troisième. Et avec l'information de couleur, de positionnement par rapport au numéro que je viens de révéler, ça va me permettre de faire des éliminations. Et comme ça, on va de tour en tour poser des questions et réduire le spectre pour trouver les numéros qu'on a devant soi. On a une autre possibilité d'interrogation, c'est que sur le dessous, le bas de ces petites tuiles, il y a des petits points. 1, 2 ou 3 points, et donc je peux très bien dire, cette tuile-là, qui a 3 points, comment elle se situe, est-ce qu'il y a autant de points sur cette tuile-là qui est devant moi? Et on me dit oui, on me dit non, et pareil, cette information va me permettre de déduire des choses. Donc, c'est quelque chose, on a bien aimé la première partie, on en a fait quand même 2-3 parties, parce qu'on a eu la chance de mettre la main sur une boîte, et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un hasard, quand même assez prépondérant, un effet de hasard, notamment dans la répartition des tuiles quand on les a en début de partie, ou aussi selon ce qu'on va tirer. Donc voilà, on a un hasard prépondérant, mais on a tous bien aimé la partie, donc il faut le prendre pour ce que c'est. un jeu de déduction familiale où il peut y avoir comme ça des inégalités de conditions de départ ou des inégalités dans le tirage, mais ça fait partie du jeu. Et voilà, si vous aimez la déduction, ça vous plaira. Maintenant, si vous creusez le jeu, si vous y allez pour de la déduction pure et dure et forte, ben vous risquez d'être un petit peu déçu ou limité dans ce qui va se passer.
Oui, c'est sûr que si vous cherchez un Turing machine, vous serez déçu. Ouais. Mais je le trouve, non, mais comme tu dis, Drew, je le trouve super intéressant déjà de base. Rien qu'à la mise en place, on peut se faire ses propres déductions. Ah, attendez, si le rose, c'est mon plus petit, c'est-à-dire que tout ce qui est en dessous, je peux pas l'avoir. Donc j'ai pas ce vert-là, j'ai pas ce bleu-là, j'ai pas ce rouge, etc. Pareil dans les plus gros chiffres. Puis après, en fonction de ce qui arrive. Alors là, si on m'a placé cette tuile-là au milieu, c'est-à-dire que tout ce que j'ai avant dans telle couleur, je l'ai pas. Tout ce que j'ai après dans telle autre couleur, je l'ai pas. Et puis ça va se réduire. Et puis arriver sur la fin, ça deviendra hyper frustrant parce que les tuiles qu'on va tirer arriver à un moment, bon, on les connaît déjà, ça nous apporte rien. Donc ouais, plaisant. Après y revenir 50 fois, etc. Peut-être pas, mais une partie de temps en temps. Enfin bon, moi personnellement, je dirais pas non.
Ouais, puis il y a cet aspect grisant quand tu déduis un truc et que tu coches 10-15 d'un coup, tu fais ouais, c'est bon.
Ouais, il y a ça qui est cool. C'est marrant parce que dans beaucoup de jeux de déduction, tu sais, l'item que tu cherches, il a plusieurs tags, j'ai envie de dire, tu vois. Je sais pas, on pense à Cluedo, hein. Cluedo, on cherche l'arme, la salle, et puis qui, la personne. Et là, en fait, tout est sur le même plan, finalement. En fait, on cherche des chiffres entre 1 et 60, je crois. C'est. Et du coup, ça crée effectivement des originalités et une forme de simplicité. Donc voilà, on peut au moins lui reconnaître ça. Après, moi, c'est pas trop bon de lire, mais...
Voilà, donc c'était God 5, un jeu de Johan Levet et illustré par Mathieu Klaus, qui s'est sorti chez Blue Orange, où ça va sortir dans les jours à venir.
Alors, on va passer à la section des jeux pour enfants maintenant. Alors, on a pu essayer Sai Sai, qui est un jeu dans lequel on va devoir amener son troupeau de moutons vers les prairies, vers les alpages. Et pour ça, en fait, on a un petit troupeau de moutons qui sont des pions. Il faut imaginer un peu des disques, sauf qu'ils sont potelés comme des moutons, quoi. Hein, voilà, je sais pas comment dire. Comme des
nuages.
Ouais, des nuages. En fait, c'est des nuages, mais ils ont des têtes de moutons. Voilà. C'est des nuages à plat, mais ils ont des têtes de moutons. Ces moutons, ils sont positionnés sur une pente. On va lancer des dés. Ils ont des couleurs, les moutons, et donc on va pouvoir avancer les moutons de la couleur indiquée, mais d'une certaine distance uniquement. Et en fait, en poussant les moutons, on va pousser ceux qui sont devant les moutons. On va pas pousser les moutons qui sont à l'avant du troupeau, on va pousser les moutons qui sont à l'arrière du troupeau.
Mais c'est un ballon, ça?
Alors non, parce que, c'est-à-dire que tu sais, dans un ballon, quand tu pousses une bille, ça va tout droit, quoi, tu vois.
Non, là c'est en fait, les pousses des fêtes foraines.
Exactement, ah, c'est Kabuto, du pousse de fêtes foraines.
Kabuto Sumo qui faisait ça aussi, je crois.
Ouais, ouais.
Ou le jeu pousse chez Hopla, t'avais carrément, ils avaient fait le
truc de pousse-pièce.
Ouais. Ouais. Hop, le jeton. Ouais, et t'avais vraiment cette sensation de jeu de pousse de fêtes foraines.
Ouais, exactement. Donc effectivement, c'est une mécanique de pousse-pièce finalement qui est utilisé, et on va comme ça, bah, chacun, donc c'est une course, en fait, hein. On a chacun notre petit troupeau, comme ça, sur notre petite pente, et puis on essaie d'être le premier à avoir fait basculer tous nos moutons dans la prairie. Il y a vraiment un lien entre le thème de la transhumance des troupeaux de moutons, on a ces moutons qui sont sur cette pente, et puis ce lien mécanique vraiment où c'est comme si effectivement c'était les moutons de l'arrière. Évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe normalement, mais ça reproduit très bien le mouvement. Évidemment, c'est un petit peu chaotique dans ce qui se passe, c'est-à-dire dans les réactions physiques qui se passent, mais j'imagine très bien les enfants prendre beaucoup de plaisir à ça. Il y a ce côté matériel vraiment qui colle à cet univers de jeux pour enfants, et nous, en tant qu'adultes, on a aussi pris beaucoup de plaisir à jouer au jeu. Il y a des plateaux asymétriques également qui existent.
Double face qu'on peut retourner, voilà, avec une pente plus compliquée de l'autre côté, oui.
Ouais. Donc une mécanique bien utilisée, qui nous évoque vraiment un thème, de la plus belle des façons, je trouve. Voilà. Donc c'est Sai Sai.
Très bonne punchline de Flavien qui nous demande si c'est illustré par Sai Sai Bepou.
C'est un jeu de Vincent Miramont, qui est illustré par Juliette Auburn-Dorfer, et c'est chez Panoply. C'est à partir de 5 ans, et il donne des parties de 15-20 minutes. Je pense pas qu'on ait passé autant de temps sur la partie, de 2 à 4 joueurs. Elodie, toi aussi, t'as une petite reco dans les jeux pour
petite
enfants.
Petite reco pour les jeux à partir de 7 ans, mais qui sont absolument tout public. Ça s'appelle Rucus. On s'y est arrêté pour attendre Mosaïque, vraiment, sans rien attendre de ce jeu. On nous a expliqué les règles, on s'est dit ça va vraiment être naze. Au lieu de faire les 50 points, vous êtes d'accord les gars, on part sur 20.
On fait une manche à Ira.
Allez, on fait une manche à Ira. Et en fait, c'est un jeu complètement bordélique. Ah vraiment, hein. Ça part dans tous les sens. L'idée du jeu, c'est un jeu de collection. Sauf que c'est un jeu de collection simultané. Et on va tous poser nos collections en même temps. On pioche, on se récupère les collections, on fait waf waf, on fait poum poum, on fait but. Ben voilà, à chaque fois qu'on récupère une carte, un tas de cartes, on gueule.
Oh les mains.
Oh les mains.
C'est plus que simultané. C'est en temps réel en fait.
Oui, voilà.
C'est ça qu'il faut bien comprendre.
C'est ça, on joue tous en même temps, on se pique les trucs en même temps jusqu'à ne plus avoir de cartes en main. On parle avec cette carte en main, on va commencer à poser sur on commence en posant sur la table les cartes qu'on a au moins en double. Donc nos débuts de collection en fait. Et derrière, on peut aller piquer si quelqu'un a la même collection que moi, je peux aller lui piquer. Je peux lui piquer toutes ses cartes d'un coup. Je pioche, je vais repiquer. Enfin voilà, ça part dans tous les sens. On fait tous les bruits des cartes qu'on pose, donc ça fait une cacophonie de ouf. Enfin, c'est on était clair. Que trois, mais j'imagine même pas à cinq. Et dès qu'on a plus de cartes en main, on fait Rucus. Ouais, impossible de me souvenir du nom du jeu. Du coup, je disais Rufus. Ils ont pas voulu.
Oh, tu gagnais déjà.
Voilà, ils n'ont pas été sympas. Chaque carte qu'on récupère, c'est un point. Et on joue comme ça jusqu'à 50 points. Finalement, ça fait partie. C'est comme Priorities. C'est des jeux, on n'attendait rien de ces jeux. On pensait que ça allait être vraiment tout naze. Et au final, c'est des belles surprises.
C'est un jeu qu'ils ont dû aller chercher aux États-Unis ou je sais pas où. Parce qu'en fait, c'est un jeu 2005 apparemment. Mais si je comprends bien, il va sortir seulement là en France. Et ouais, c'était une belle surprise. C'est complètement foutraque. Les sons, alors on pourrait dire c'est complètement ça sert à rien, je sais pas quoi. Mais en fait, ça permet de savoir ce qui est déjà tombé comme carte, du coup ce que tu peux aller voler chez les gens.
Oui, puis
ça te permet de te rendre compte de ce qui te vole aussi.
Oui,
parce que t'es tellement dans ce que tu fais et tout, d'un coup tu fais oh mon tas de pot, il est parti.
Mais ils doivent être en train de jouer à Rucus à côté parce que vous entendez cette cacophonie.
Alors là, il y a tous les en fait les personnes du Palais des Festivals qui démontent les tables de... ils jettent les pieds, les plateaux et...
Donc Rucus, c'est un jeu de Dan Levy illustré par Edoul. C'est donné pour 7 ans et plus de 2 à 5 joueurs en 10 minutes et ça sortira ou c'est sorti chez Blue Orange.
Alors ensuite, on a pu essayer Dixit Kids, qui nous a d'ailleurs été expliqué par une charmante animatrice et de façon très claire. Hein. C'était Elodie qui a préservé l'animatrice en fait, hein, puisque tu avais déjà joué au jeu. Je me l'avais recommandé, moi j'avais pas encore eu l'occasion de l'essayer. Et effectivement, très belle recommandation parce que je trouve que c'est une très belle revisite de Dixit. Donc c'est une version pour enfants. Les adaptations qui ont été faites. Alors c'est marrant parce que finalement on joue à l'envers de Dixit. C'est-à-dire qu'on joue de façon coopérative déjà. On va devoir faire deviner des sentiments. Ça c'est aussi intéressant parce qu'on est en train de jouer avec des enfants. Donc c'est un peu la rencontre entre Dixit et le monstre des couleurs qui jouait uniquement sur les sentiments, les impressions, les émotions. Donc là c'est un jeu qui nous propose aussi de jouer là-dessus. Et de parler de ce sujet-là, de discuter entre parents, enfants, éventuellement entre adultes, enfants en tout cas, potentiellement ou même entre enfants, de qu'est-ce que ça nous évoque ces cartes-là comme sentiment, comme émotion. Donc il y a un ou une joueuse qui va devoir jouer une carte en rapport avec une émotion qu'il a plus ou moins choisie. En fait, en gros, il a un choix entre deux émotions. Il choisit une carte parmi celles qu'il possède pour évoquer cette émotion. Et les autres vont devoir choisir une carte qui n'évoque absolument pas cette émotion. C'est là aussi que ça renverse Dixit. Je ne sais pas si c'est forcément toujours évident de jouer, en tout cas à partir de 6 ans, sur le côté inverse. C'est pas forcément l'inverse, hein, d'ailleurs. C'est juste que ça évoque pas cette émotion. Et ensuite, voilà, on mélange classiquement les cartes et puis on va faire un vote. Donc, il va falloir trouver en gros la carte qui a été la primo carte, hein, qui a été utilisée par la personne qui tente de faire deviner la fameuse émotion.
La petite factrice.
La petite factrice.
La lapine factrice.
Oui, j'ai pas expliqué le thème, mais bon. C'est une belle adaptation. Il y a quelque chose de sympathique en plus dans le fait de voilà, on est la factrice qui va apporter les lettres d'invitation à un goûter d'anniversaire. En fait, c'est plus que la factrice. C'est le lapin.
Elle a à la fois la factrice et celle qui fête son anniversaire. Elle fait les deux en même temps.
Voilà.
Et puis il y a un gimmick matériel où on ouvre les terriers des lapins.
Ouais.
Et ça, c'est absolument délicieux. Enfin, ouais. Il y a un effet waouh sur ce jeu quand on ouvre ces petits terriers là, qui est vraiment super.
Voilà. Donc aux manettes, on a Élodie Clément, Théo Rivière et Jean-Louis Roubira. Aux illustrations, on a Lucie Dessertine, Émilie Peik, Sepio et Iris Winker. Et c'est donné à partir de 6 ans. C'est chez Spaceco et Libellude, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est une coédition.
Bah, c'est dans la, enfin c'est la nouvelle ligne. C'est Asmodee Kids. On a eu aussi le Splendor Kids comme ça dans cette gamme-là. Splendor Kids qui est beaucoup plus oubliable. Hein.
Voilà, et donc de 3 à 6 joueurs et joueuses. Je voulais juste évoquer un autre jeu qu'on n'a pas essayé là sur le salon, parce qu'en fait on y a déjà joué par ailleurs. C'est Athlète de Compète, puisque c'est le nom qui va être donné chez Yellow à Magical Athlète. Qui est un jeu qu'on vous recommande très fort, hein. C'est un jeu de course dans lequel on va avoir des personnages avec des pouvoirs de dingue et à son tour de jeu on va tout bêtement lancer un dé pour avancer du nombre de cases indiquées, sauf qu'il va se passer tout plein de trucs avec les pouvoirs des persos. En bref, c'est un côté un peu foutraque et il se passe tout plein de trucs et plein de rebondissements et c'est juste incroyable. C'est très régressif. Pas mal d'entre nous y ont déjà joué.
Oui.
Voir le possède.
Mais sur le salon, vous pouviez jouer à la version géante, la version un peu moins géante ou la version normale. Il y avait toutes les tailles.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Oui, il y a un petit côté un peu too much, je trouve, dans l'édition, mais bon. Voilà quoi. Donc Athlète de Compète, c'est un jeu de Richard Garfield et Takashi Ishida. C'est illustré par Angela Kirkwood, de 2 à 6 joueurs et joueuses, une trentaine de minutes de partie, et il le donne à partir de 6 ans. Voilà. Très bien. Bon, impression générale sur cette cuvée 2026 du Fige.
Plein de jeux en avant-première, c'est très chouette de découvrir ça. Très belles initiatives aussi du festival. On n'en a pas parlé, mais une super fluidité quand on rentrait. Jamais on a été bloqué. A priori également pour les festivaliers. Enfin, on sent des efforts et des améliorations d'année en année qui sont fort agréables.
J'ai eu l'impression qu'il y avait quand même toujours des tables ouvertes jouables. On n'a pas eu des moments où on a attendu un peu quand on voulait vraiment jouer à un jeu, mais sinon il y avait quand même moyen de toujours trouver une place. Ouais, moi je trouve que c'est de mieux en mieux, de plus en plus agréable. Et ouais, qu'il y a des vraies attentions aux festivaliers, festivalières. La terrasse en haut, ça c'est vraiment magique. On l'a déjà dit, mais c'est tellement cool, quoi.
Oui, le festival qui tous les ans propose des nouvelles choses, qui agrémente, qui teste des choses, alors qu'il est tous les ans victime de son succès, hein, parce qu'il y a toujours beaucoup beaucoup de monde et à chaque fois ils essayent de faire un peu plus pour pouvoir acquérir un peu plus, mais ouais, ça marche bien cette année. Il y avait les jeux d'occasion, il y avait l'expo Pierrot, ils ont presque doublé la salle du off. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de nouveautés dans le sens pouvoir accueillir et pouvoir j'allais dire disperser les gens, mais en tout cas leur donner plus d'espace pour faire plus de choses et peut-être se sentir un peu moins serré. Et cet après-midi on est sorti justement là sur le quai et je me suis dit mais c'est cool aussi sur le quai, quoi, et d'avoir de l'espace comme ça, et il y a des tentes et on peut aller dans les tentes et essayer des choses, et c'est cool aussi. Ouais
super super édition. Alors je vais peut-être dire un truc, ça peut-être sembler hyper trivial, mais les toilettes sont toujours nickel.
Tout le temps des gens pour les nettoyer.
Y a en permanence
incroyable.
Des gens qui passent pour les nettoyer. C'est toujours propre, c'est toujours chargé en tout ce qu'il faut. Franchement, voilà, bêtement rien que ça, c'est plaisant.
Non, puis saluer ce travail qui est quand même ingrat, quoi.
Ouais, ce travail de l'ombre, les gens qui viennent nettoyer aussi les nuits.
Au-delà de ça, les poubelles sont vidées en permanence, c'est propre, il n'y a pas de trucs qui traînent. Il y a un vrai travail de fourmi qui est fait derrière en permanence pour que tout se déroule dans les meilleures conditions de propreté, d'hygiène et puis d'organisation. Il y a pas mal d'agents de sécurité qui sont un peu partout pour s'assurer que ça roule bien, que les foules soit cadré, soit dirigé, etc. Franchement, c'est hyper plaisant.
Voilà. Félicitations à l'organisation, du coup, pour tout ça. On voit les efforts qui sont faits, on voit la recherche de nouvelles activités, de proposer de la variété. pour les festivaliers. Bah, c'est cool. Et je crois qu'on peut dire aussi qu'on apprécie notre nouveau spot. Hein, même si au déménagement, là, ce soir, c'est un peu plus bruyant que d'habitude, je crois, quand même.
Mais on valide quand même.
Ouais, et puis, un grand merci, du coup, à l'équipe du festival qui nous permet d'avoir ce stand et d'être là, d'être présent sur le festival. Merci beaucoup à vous.
Merci pour la confiance, du coup, que vous avez renouvelée. On espère pouvoir recommencer ça l'année prochaine. On va clôturer avec notre top 3. Allez, c'est parti. Kurt, ton top 3 des jeux joués ou pas, hein, mais du coup, on va dire...
Alors, c'est pas un top 3 dans l'ordre, c'est les trois jeux que j'ai le plus appréciés, qui vont être Vroom, Le Petit Théâtre et Kumata.
Ok. De ton côté, Elodie?
Moi, j'en aurais 4. Il y en a 2 qui sont sur la troisième marche. J'arrivais pas à les départager.
Oh là là là, ça donc, triche.
Ouais. Once Upon a Line, Vroom, Carnival of Sins et Le Petit Théâtre.
Ok. Lana?
Alors, j'ai pas d'ordre précis, mais j'ai beaucoup apprécié Ace of Spades, Locus et Kumata.
Ok. Drew?
Pour moi, ça sera Soothsayer, Leda et Kumata.
Très bien. Et de mon côté, ça sera aussi sans ordre Skyrift, Doxa et Magical Athlete. Et on a quand même demandé à nos petits camarades du coup qui sont partis leur top 3. Et donc je vais vous les énoncer. Vous pouvez les retrouver dans le billet dans tous les cas. Donc pour Benoît FX, c'est Vroom, Wardenkin et Comic Strip. Pour Peter, c'est Skyrift, Sci-Sci, du coup on vient de parler, et Pépite. Dont on n'a pas parlé, je reviendrai peut-être rapidement sur les jeux dont on n'a pas parlé. Et du côté de Caducé, c'est Red Notice, Miami et All In Predictions. Donc Pépite, c'est un jeu de choix simultané dans lequel on va dans lequel en gros, voilà, il y a des pépites d'or au milieu, il va falloir les faire transiter par son saloon puis la banque. On a tous des cartes, les mêmes cartes. Et il va falloir essayer de jongler entre le fait de rapatrier les cartes, de les stocker dans sa banque. À la fin, celui qui va avoir le plus d'or dans sa banque qui va gagner. Bref, du choix simultané. C'est des styles de jeu qu'on a déjà vu par le passé. La particularité de celui-ci, c'est que il y a une dynamique de end building dedans. Donc, on va acquérir des nouvelles cartes de manche en manche. Le jeu propose même qu'on puisse acquérir. En gros, il y a deux modes de jeu. Il y a un mode où on acquiert de façon linéaire certaines cartes et tous les mêmes en même temps. Et il y a un mode qui nous permet d'aller chercher les cartes qu'on veut au fur et à mesure. À chaque manche, on va choisir une carte parmi un pool pour alimenter du coup son jeu.
Red Notice, c'est un jeu asymétrique où une agent du FBI va essayer de choper une faussaire qui va lui filer au moins 2 fois entre les doigts. Et si elle l'attrape une 3e fois, la partie est gagnée. Condition de victoire de l'autre côté, faut qu'elle arrive à s'échapper.
D'accord. Donc, c'est juste à 2, c'est ça?
C'est juste à 2. Ouais.
Ouais, très sympa celui-là aussi. Ouais.
Elles avaient l'air, la tension entre Caducé et Lana était à couper au couteau. On était là en observateur avec Drew. On sentait que c'était tendu de ouf et que ça bouillait à côté de nous.
Ah, c'est un jeu qui tient toutes ses promesses et qui l'a réussi, hein.
Et All In Prediction, donc c'est encore un jeu basé sur des mains de poker, dis donc.
Ouais.
De Phil Walker Harding. Où là, on va se servir de man poker pour remporter des points, puisque en fonction de ce qu'on va révéler à la fin de la manche, hein, ça va se jouer en un certain nombre de manches, c'est que 3, il me semble, on va gagner des points qu'on peut gagner de diverses manières. Et le tour de jeu, en fait, c'est je dois défausser une carte de ma main pour aller en rechercher d'autres. Et la carte que je défausse a des effets qui va me dire d'aller en piocher en blind, en piocher dans la rivière... ou autre, et c'est comme ça, c'est intéressant parce que on commence à avoir une bonne main, mais il faut la casser parce qu'on doit jouer une carte à chaque tour, et on espère qu'en la cassant, c'est pour prendre quelque chose de mieux, mais ça marche pas à tous les coups, donc très intéressant, on a fait une partie, moi ça me demande à y rejouer pour être fixé, parce que on était 3, alors à plus ou moins de joueurs, voir ce que ça donne, mais intriguant en tout cas, et envie d'en refaire.
Et pour nos auditeurs qui sont venus sur le salon, qui étaient de passage ou sur toute la durée du salon, n'hésitez pas aussi à nous partager vos impressions, vos coups de cœur, vos tops, vos déceptions. dans le Discord ou dans le billet ou sur les réseaux sociaux. De préférence, je pense, sur Discord. Ça permettra la discussion avec nous.
Voilà. Eh bien, écoutez, c'est la fin de ce Fige 2026 pour nous. Il nous reste à vous dire au revoir. On remercie une nouvelle fois l'organisation du Fige de nous avoir accordé ce stand qui nous a permis de réaliser les interviews et les débriefs sur place. On espère vous retrouver l'année prochaine, peut-être dans les mêmes conditions, peut-être qu'on changera, je ne sais pas encore. L'avenir nous le dira. En tout cas, on n'a pas encore les dates pour 2027, mais c'est toujours fin février de toute façon. Donc vous pouvez déjà réserver les dates dans votre calendrier. Je voulais aussi vous remercier toutes et tous de l'équipe. Moi, ça a été un plaisir de partager ce Fige 2026 avec vous. On a une petite pensée pour les trois chroniqueurs chroniqueuses qui ne peuvent pas être là avec nous ce soir. Là, ils sont sur la route. On leur souhaite un bon retour et on leur envoie tout plein de bisous.
Ouais, merci à vous toutes et tous. J'ai trouvé que c'était hyper fluide cette année et que hyper agréable et un petit pincement au cœur quand même là sur la fin.
Bah ouais, c'est chouette mais de c'est se retrouver. Voilà. Mais
il va bientôt y avoir la larmichette là. Qu'il est temps de couper, je vous propose. Avant qu'on me perde.
Attends, tu seras moins ému quand il faudra démonter le stand.
Et rentrer dans la bourrasque qu'il y a dehors.
Ouais, surtout sortir. Oh, ça a l'air d'être un déluge de maboule là dehors.
Ouais. Bah oui, c'est terminé. Retour à la réalité, à la semaine et à la pluie.
Mais on n'oubliera pas de jouer chez nous. Eh, chères auditrices, chers auditeurs, c'est la fin de ce débrief. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire dans le billet de l'émission. Vous pouvez également nous aider. N'oubliez pas, vous pouvez nous faire un don. Pour ça, vous allez sur la page d'accueil du site. Vous trouverez toutes les infos qui vont bien. On vous rappelle que c'est grâce aux dons qu'on peut se payer le logement à Cannes. Et donc c'est grâce à nos donateurs et donatrices qu'on peut réaliser ces interviews. Sinon, je crois sincèrement qu'on y mettrait un peu moins d'énergie. Faut pas se mentir. Et du coup, encore un grand merci à nos donateurs et donatrices. Voilà, sachez que c'est vraiment vraiment grâce à vous. C'est pas du flan quand on le dit. Donc bref, ça c'est sur la page d'accueil du site hein, podcast.proxy-jeux.fr, proxy avec un i, jeu avec un x. Vous avez le droit de l'écrire en rouge, c'est pas très grave, on vous aimera quand même. Alors on se retrouve l'année prochaine pour le Fige 2027. D'ici là, et ça va vous laisser quand même pas mal de temps, hein. D'ici là,
jouez bien.